Alors, c'est une longue histoire, hein. Le Venezuela, bon, c'est un pays d'Amérique latine, c'est le cinquième pays producteur de pétrole, qui a connu une dictature jusqu'en 1958, celle de Pérez Jiménez, mais ça on a oublié, ça c'est très loin, et qui, dans toute la période moderne, en fait, a échappé à ce qu'ont été les dictatures du cône sud, dans l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, qui a été relativement tranquille. Alors, c'est un pays pétrolier. Et dans ce sens, il a bénéficié dans les années 70 du premier choc pétrolier. Hein, vous souvenez, enfin, vous vous souvenez, non, vous êtes jeune, vous. Les années 70, il y a eu un choc pétrolier. Les prix du pétrole, comme en ce moment, ont augmenté d'une manière considérable. Et c'est l'époque où on appelait le Venezuela saoudite. Hein. C'est l'époque où l'argent coulait à flot au Venezuela, où on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le Vénézuélien était le plus gros consommateur de whisky du monde, hein, Johnnie Walker du monde. C'est l'époque où on appelait les Vénézuéliens les Damedos. Alors Damedos, pour ceux qui parlent espagnol, donne-moi deux, hein, tellement ils avaient de l'argent qu'ils achetaient deux par deux. Ou on les appelait aussi les Stabarata, c'est pas cher. Hein, c'est arraché. Et c'est l'époque où la classe moyenne vénézuélienne allait faire ses emplettes à Miami. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est pas une image, en l'occurrence. Hein. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde cette période, pendant laquelle le Venezuela a touché l'équivalent de 16 plans Marshall, hein, le plan qui a été mis en place après la guerre pour reconstruire l'Europe, l'argent a coulé à flot, sauf que on s'est quand même retrouvé dans une situation assez bizarre, c'est que ce pays a réussi à jeter 70% de sa population en dessous du seuil de pauvreté, malgré tout cet argent qui a coulé. Bon, ce qui évidemment posait un problème. Et puis le temps des vaches grasses s'est terminé, puisque les prix du pétrole ont fini par rebaisser. Le Venezuela s'était beaucoup endetté, et donc d'un seul coup s'est retrouvé étranglé. Et à ce moment-là est intervenu, enfin, sont intervenus des protagonistes qu'on connaît bien quand on s'intéresse à l'Amérique latine, c'est le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale, qui ont décidé qu'il fallait un ajustement structurel, hein, c'est-à-dire que pour payer la dette, ben, il fallait se serrer la ceinture. Et à qui est-ce qu'on a demandé de se serrer la ceinture? Une fois de plus, c'est aux pauvres. Hein, c'est 70% de pauvres, à tel point que en février 1989, dans le cadre de cet ajustement structurel, les prix des produits de première nécessité se sont vus débarrassés de leurs subventions. Le prix des combustibles a doublé du jour au lendemain. Hein. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, les pauvres ils n'ont pas de bagnole. Sauf que les transports publics, évidemment, ont augmenté quasiment du jour au lendemain, et donc il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte de la population le 27 février 1989. Elle est passée relativement inaperçue. Hein. Elle a été réprimée extrêmement durement, puisqu'elle a fait environ 3 000 morts. Hein, c'était 27 février 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin. 3 000 morts à Caracas. Répression terrible, répression extrêmement, extrêmement brutale. Et à ce moment-là vont entrer en scène des militaires qu'on ne connaît pas à l'époque, dont un certain Hugo Chavez, hein, qui est l'actuel président, qui lui est entré dans l'armée en 1971 comme cadet pour élève officier. Et qui, depuis l'époque où il est entré, est scandalisé par cette démocratie qu'il appelle corrompue. Et donc, qui, depuis 1985, conspire plus ou moins au sein de l'armée. Il a formé un mouvement qui s'appelle le mouvement bolivarien révolutionnaire 200, MBR 200, ce qu'il a créé l'année du bicentenaire de la naissance ou de la mort de Bolivar, je sais plus. Et il conspire. Et effectivement, quand arrive ce qu'on appelle le Caracas, cette tragédie à Caracas, d'un seul coup, ces militaires n'en peuvent plus, d'autant que ce sont eux qui ont réprimé. Bon, Chavez était malade, lui, il n'a pas eu à le faire. Et donc, ils se sentent dans la solitude des mercenaires, et eux décident de passer à l'action. Ce qui fait que ce fameux Chavez, qui va être lieutenant-colonel, Hugo Chavez, va tenter un coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez le 4 février 1992, hein, ce qu'on connaît avec son béret rouge. Il va échouer, il va être emprisonné, il est condamné à 30 ans de prison, hein, il ne va en faire que deux, il va être amnistié parce qu'il y a une telle pression sociale sur le président de l'époque, Rafael Caldera, qui décide de libérer les militaires rebelles pour calmer un peu la population. Et en sortant de prison, à la première question qu'on lui pose, Chavez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, il dit, je vais faire pareil, je vais essayer de prendre le pouvoir. Hein. Sauf que pendant 2 ans, au sein de son mouvement, il va y avoir un très très fort débat. Très très fort débat pour savoir si on va retenter de prendre le pouvoir par la violence, coup d'État, insurrection, je sais pas quoi, ou si on va jouer la carte démocratique, Et finalement, Chavez va appuyer le courant modéré, on pourrait dire, en décidant qu'on va essayer de prendre le pouvoir démocratiquement. Et donc en 96, il se lance dans la course politique démocratique, dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'appui, les médias ne veulent pas de lui, il est combattu par tout le monde. En plus, dès sa sortie de prison, il a été rencontré Fidel Castro, qui l'a reçu comme un chef d'État. Donc tout ça a fait tout un bordel, mais on parle pas comme ça à la radio. Et donc il se lance dans la lutte électorale, et quelques mois avant les élections en 2008, les sondages le créditent de 6% des voix.
98,
ouais, la première élection présidentielle. Les sondages le créditent de 6% des voix, et il va gagner évidemment avec 56%. Et c'est ainsi que Hugo Rafael Chavez Frias, ancien lieutenant-colonel de parachutistes, fils d'humbles instituteurs, devient président de ce qui est encore à l'époque la République du Venezuela, et qu'il va transformer en faisant élire une assemblée constituante en République bolivarienne du Venezuela.
Et tout à l'heure, quand vous parliez des appuis qu'il avait et du débat interne qu'il y avait dans le mouvement bolivarien qu'il a créé, c'était qui justement les gens qui le suivaient ?
Ah, les gens qui le suivaient, c'est une partie de la gauche. J'ai bien une partie, parce qu'une autre partie s'est séparée d'emblée, mais c'est des gens comme celui qui a été son ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Luis Michelena, qui depuis l'a quitté, qui était le fondateur du Parti communiste vénézuélien. Ce sont d'anciens guérilleros aussi qui se sont ralliés à lui, puisqu'il y a eu des guérillas aussi au Venezuela dans les années 60, comme partout en Amérique latine. C'est une partie de la gauche vénézuélienne, et puis surtout c'est ce mouvement populaire, ce mouvement social qui jusque-là était dépourvu de leader. Et qui, c'était très étrange la manière dont ça s'est passé, parce que lorsque Chavez a tenté son coup d'État le 4 février 92, personne ne le connaissait. Ce qui fait qu'il y a des affrontements très violents à Caracas, des affrontements entre militaires, et la population ne descend pas dans la rue. Elle ne descend pas dans la rue pour soutenir ce... D'ailleurs, on connaissait même pas son nom, on savait pas qui commandait ce coup d'État militaire. Donc elle ne descend pas dans la rue pour défendre, parce qu'y compris, elle se demande si c'est un coup d'extrême droite ou un coup d'extrême gauche. On ne sait pas, c'est peut-être des fascistes, c'est peut-être un Pinochet local. Mais en même temps, elle ne descend pas dans la rue non plus pour défendre la démocratie. Elle reste neutre. Elle attend de voir ce qui se passe. Quand Chavez est arrêté, elle découvre ce jeune lieutenant-colonel avec son béret rouge, qui devant les caméras de télévision, d'abord appelle ses derniers camarades qui se battent à cesser les combats, en leur disant, écoutez, la partie est perdue. Et puis qui dit, nous n'avons pas atteint nos objectifs por ahora, pour l'instant. Le fameux pour l'instant. Et ça, les Vénézuéliens les plus pauvres l'entendent. Et d'un seul coup, ça résonne dans les barrios, ça résonne dans les campagnes, et Chavez devient la personne, l'homme le plus populaire du pays. Ce qui fait que quand il ressort de prison, évidemment, des intellectuels, des gens qui sont déjà investis dans la politique vont le rejoindre et vont l'accompagner dans cette aventure.
Et quelles étaient les ambitions de Chavez à cette époque-là ? Quel était son programme politique finalement ? Pourquoi il a été élu ?
Alors pourquoi est-ce qu'il a été élu ? C'est parce que le système politique vénézuélien était à bout de souffle. C'est-à-dire que le pays avait été gouverné depuis 1958 par deux partis, Action démocratique, un parti social-démocrate, El Copey, un parti démocrate chrétien, qui s'était partagé le pouvoir, qui s'était partagé les préventes, qui s'était partagé l'argent du pétrole, donc laissant, je l'ai dit, la majorité, l'immense majorité de la population en dessous de ce niveau de pauvreté. Donc il y avait un épuisement du système politique. Il y avait eu le Caracasso, 3000 morts, c'est pas rien. 3000 morts, faut, évidemment, on est habitué au Rwanda et tout ça, on dit 3000 morts, c'est pas grand-chose. 3000 morts, c'est le même chiffre que le nombre des morts pendant toute la dictature de Pinochet au Chili. Et là, ça s'est fait en une semaine, ça s'est fait en 5 jours. Donc il y a eu ce traumatisme quand même. Et donc Chavez, a priori, je veux dire, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de projet politique, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est changer. Il veut changer, il veut chasser cette démocratie corrompue. Et c'est ensuite, petit à petit, qu'il va élaborer le programme qu'on va se mettre en place aujourd'hui, qui est un véritable programme de réforme sociale, que lui appelle la révolution bolivarienne. Mais au départ, personne ne sait trop ce qu'il va faire. Sa première action, ça va être précisément l'Assemblée constituante. C'est-à-dire, a priori, on n'a pas l'impression qu'il s'attaque d'abord à la pauvreté, à la misère, etc. Il fait élire une assemblée constituante, il fait rédiger une nouvelle constitution. Alors, c'est pas comme chez nous, hein. C'est pas les Giscards locaux qui est d'abord la constitution. Là, c'est vraiment le peuple, hein, qui est élu, y compris les populations indigènes. Tout le monde participe. On est d'abord la nouvelle constitution, et puis ensuite, à la lumière de cette nouvelle constitution, il décide qu'il faut remettre en jeu tous les pouvoirs établis, y compris lui. C'est-à-dire qu'il se fait réélire à la présidence sous les auspices de la nouvelle constitution. Donc il est réélu en 2000, président. Et à partir de là, il va commencer à mettre en route alors la révolution bolivarienne. Et c'est évidemment ce qui va mettre le feu aux poudres et provoquer le coup d'État du 11 avril 2002.
Et c'est quoi justement cette révolution bolivarienne ?
On va y arriver. On peut dire que l'acte de naissance de la révolution bolivarienne, c'est le 31, c'est peut-être pas le 31, ou le 21 novembre 2001, lorsque Chavez fait passer 41 décrets-lois, parmi lesquels une loi des terres, c'est-à-dire une réforme agraire, parmi lesquels la loi de la pêche, parmi laquelle la loi sur les hydrocarbures, dans lequel il interdit de privatiser la compagnie pétrolière nationale, PDVSA, ce qui est extrêmement important, puisque c'est elle le cœur de l'économie vénézuélienne, c'est-à-dire lorsqu'il rentre au cœur de la réforme qu'il va engager. Et c'est là que l'opposition, d'un seul coup, sous prétexte de défendre la propriété privée, va commencer à rentrer en rébellion, va commencer à organiser une première grève générale et puis une série de manifestations et qui ça va déboucher sur la tentative de coup d'État du 11 avril 2002. Hein. Mais c'est précisément au moment où il lance les réformes sociales que l'opposition d'un seul coup se rend compte qu'il a véritablement un projet et que c'est un projet révolutionnaire.
C'était quoi les réformes sociales qu'il voulait mettre en place exactement ?
Alors, c'est celle qu'il est en train de mettre en place, puisque le coup d'État d'avril 2002 qui a échoué, hein, donc il faut le rappeler, puisque le 13 avril, il a été ramené au pouvoir à la fois par une immense manifestation de la population, puisqu'il y avait le 13 avril, deux jours après qu'il ait été emprisonné, 1 500 000 habitants dans la rue. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, il va vraiment pouvoir déployer son projet. Étant entendu aussi qu'il faut rappeler qu'il a été victime, après le coup d'État, d'une tentative de déstabilisation économique, puisqu'il y a eu un lockout qui a duré 2 mois, 63 jours.
Et justement, comment ça s'est passé, ce lockout, et qui lui en voulait, et pourquoi on lui en voulait particulièrement ?
Alors, c'est les mêmes que ceux qui ont tenté le coup d'État en avril 2002. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est les classes dirigeantes, c'est les partis politiques traditionnels, qui d'un seul coup se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à un militaire un peu classique qui arrive au pouvoir, va oublier toutes ses promesses, mais qu'il a véritablement un projet de transformation sociale. Hein. C'est-à-dire quand on parle de réforme agraire, par exemple, c'est pas uniquement des mots. Le Venezuela est un pays qui est éminemment un pays agricole. Hein. Si vous avez la chance d'aller au Venezuela, vous allez aller dans les campagnes, vous allez voir, vous suivez une route et pendant des kilomètres, des dizaines de kilomètres, tous les champs sont barbelés, c'est-à-dire c'est de la propriété privée. Et puis de temps en temps, il y a 10 têtes de bétail là, 10 têtes de bétail ici. C'est pas très rationnel tout ça dans la mesure où le Venezuela importe 70% de son alimentation. C'est-à-dire que la terre est entre les mains de grands propriétaires, elle est inexploitée, le pays importe son alimentation et en plus vous avez des centaines de milliers de paysans sans terre. Donc il fait une réforme agraire. Sa réforme agraire, il touche pas aux terres productives. Hein, en dessous de 5000 hectares, quelqu'un qui a de la terre et qui la met en exploitation n'est pas touché par la réforme agraire. En revanche, toutes les terres qui ont été volées à l'État, ou qui sont improductives, qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'utilité sociale, sont récupérées par l'État et distribuées aux paysans. Hein. Moyennant quoi, à l'heure où nous parlons, 2 millions d'hectares de terres ont été remises à 100 000 familles paysannes, essentiellement à travers des coopératives. Donc, ça, c'est un exemple concret de la révolution bolivarienne. Évidemment, ça ne plaît pas aux terres ateniennes, c'est les grands propriétaires. Évidemment, ça ne plaît pas à la classe politique traditionnelle. Hein. Donc, dès que tout ça est mis en place, il va y avoir tentative de coup d'État, déstabilisation économique. Déstabilisation économique également de la part de ceux qu'on appelle les généraux du pétrole. Les généraux du pétrole, c'est les technocrates hein, qui dirigeaient la compagnie pétrolière nationale, PDVSA, qui, lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, était en voie d'être privatisé. Or, dans la Constitution, il a été écrit qu'on ne pouvait pas privatiser la compagnie pétrolière nationale. Donc là aussi, il rentre en conflit avec une technocratie qui voulait s'en mettre plein les poches en privatisant le pétrole. La réforme agraire, par exemple, il a fait inscrire dans la Constitution que le pays doit assurer sa souveraineté alimentaire. Hein. Donc tout ça est très cohérent, très lié. Donc à partir de là, l'opposition se rend compte qu'il se passe effectivement quelque chose. Donc elle va essayer de déstabiliser. Elle échoue sur le coup d'État, elle échoue sur la déstabilisation économique, et à partir de là, la révolution bolivarienne va réellement se mettre en route. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, donc avec... pardon, la réforme agraire, mais aussi ce qu'on appelle les missions. Alors les missions, par exemple, la plus connue, c'est la mission Barrio Adentro, dans les quartiers. Le Venezuela a passé un accord avec Cuba. Il fournit à Cuba, au début c'était 53 000 barils de pétrole par jour, aujourd'hui c'est 90 000 barils de pétrole par jour, à des conditions préférentielles, ce qui constitue un ballon d'oxygène pour l'économie cubaine qui est quand même dans une situation assez difficile. Mais en même temps, une partie de cette facture énergétique est payée par Cuba en envoyant des médecins, des enseignants, des entraîneurs sportifs, des spécialistes. Et dans ce cadre-là, 15 000 médecins cubains sont actuellement dans les quartiers populaires... Pardon, dans les quartiers populaires, dans les quartiers qui n'avaient jamais eu accès à la santé. Hein. N'avaient jamais eu accès à la santé parce que les années 80-90 ont été les années de le bulldozer néolibéral, on a privatisé la santé, les hôpitaux publics sont dans un état absolument déplorable, quelqu'un qui habite dans un quartier pauvre, s'il a vraiment une maladie grave, il faut qu'il descende à l'hôpital, qu'il fasse 4 heures de queue, enfin je veux dire c'est l'horreur, et s'il veut avoir accès à un médecin privé, il faut qu'il soit capable de payer $18 la visite. C'est impossible. $18 la visite pour des gens qui vivent avec $1, $2 par jour, c'est impensable. Et là, effectivement, d'un seul coup, arrivent ces 15 000 médecins cubains qui font des visites à domicile, qui distribuent des médicaments gratuitement. C'est évidemment, pour ces gens, un progrès absolument fantastique. Ça n'apparaît pas dans les grands cadres macroéconomiques, hein, de la Banque mondiale, du FMI, ça se voit pas. Mais sur le terrain, dans les barrios, évidemment, les gens sont fous de joie. Après, vous avez ce qu'on appelle la mission Mercal. Mercal, c'est les marchés populaires. Marchés populaires, c'est des marchés dans lesquels on vend les produits de première nécessité à des prix inférieurs au prix du marché. Là encore, pour les plus pauvres, c'est évidemment bénédiction. La réforme agraire. Réforme agraire très importante, hein. Je l'ai dit, 100 000 familles de paysans, c'est pas rien, hein, qui d'un seul coup ont accès à la terre. C'est intéressant, en même temps, parce que ce sont, en partie, ces coopératives agricoles qui sont mises en place par la réforme agraire qui viennent alimenter les marchés populaires. Les Mercal, avec l'aide de l'armée, hein, c'est-à-dire que les canons de l'armée, au lieu d'avoir, comme d'habitude, des missions répressives, sont mis, en fait, servent à aller dans les coopératives, récupérer les légumes, les amener dans les marchés populaires, distribuer les produits dans les marchés populaires. Donc il y a ça. Il y a eu la campagne d'alphabétisation. Campagne d'alphabétisation, mission Robinson, qui là encore, avec une méthode cubaine, a permis d'alphabétiser 1 300 000, 1 400 000 personnes. Alors, certains vous diront, bon, finalement, au Venezuela, il se passe rien. Hein, la pauvreté n'a pas diminué, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai aujourd'hui, elle est en train de diminuer. En même temps, il faut quand même bien voir qu'un pauvre qui a accès à la santé, moins pauvre qu'avant. Un pauvre qui a été alphabétisé, moins pauvre qu'avant. Il a beaucoup plus de chances de pouvoir s'insérer dans un marché du travail éventuellement que quand il est complètement analphabète. Et puis après, on pourrait multiplier les exemples. Hein. Il y a la mission Rivas qui permet à des jeunes qui ont abandonné leurs études secondaires, de les reprendre avec une bourse de l'État. Et puis il y a la Banque des Femmes, la Banque du Peuple, les microcrédits, un ensemble de mesures, bien souvent en marge de l'appareil d'État, c'est vrai, qui font qu'aujourd'hui, et en partie évidemment parce que le pétrole permet de le faire, hein, les prix du pétrole en ce moment sont très hauts, encore que il faut noter que, bon, en général, on cite $60 en ce moment environ, hein, pour le pétrole. Le pétrole vénézuélien se vend moins cher parce que c'est un pétrole extra lourd qu'il faut raffiner d'une manière... Ça demande plus de travail de raffinage. Donc le Venezuela perçoit environ $50 le baril. Hein, mais effectivement, je veux dire, ça aide. Hein, puisque la Compagnie pétrolière nationale, par exemple, en 2004, a versé directement de ses caisses 3 milliards 400 millions de dollars directement en direction des programmes sociaux. Alors, les orthodoxes, les comptables et tout ça hurlent au scandale en disant c'est pas possible, on n'a jamais vu ça dans une économie moderne, on peut pas tirer directement de l'argent de la caisse de la compagnie nationale pour le banc. En même temps, faut dire que les économistes orthodoxes sont aussi ceux qui ont largement participé à la misère de l'Amérique latine, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y avait 120 millions de pauvres en 1980 et qu'il y en a 224 millions aujourd'hui. Donc après tout, c'est vrai que la politique de Chavez n'est pas très orthodoxe, mais on voit pas qui va lui donner des leçons compte tenu du marasme dans lequel les rois de la finance ont jeté le sous-continent.
Et tout à l'heure, vous parliez de l'opposition de Chavez, et justement, qu'a-t-elle essayé de faire pour l'empêcher de faire ses réformes? Et quel a été le rôle des médias aussi dans cette...
Vous voulez me faire dire du mal de mes confrères, c'est pas bien ça.
Bon. Les médias déjà au Venezuela.
Ouais. Non, il y a eu bien sûr ce qui est le plus connu, c'est la tentative de coup d'État d'avril 2002, avec l'aide des États-Unis, hein, il faut le dire. Qui a été une opération, c'est-à-dire ça n'a pas été un coup d'État folklorique, contrairement à ce qu'on a souvent raconté, c'était une opération très très sophistiquée, soigneusement montée, un coup d'État moderne. Un coup d'État dont on pouvait dire après que c'était pas un coup d'État. C'est un peu comme cette boisson, je sais pas si vous buvez de ça, moi j'en bois pas non plus, mais Canada Dry. Ça a le goût de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Hein. Le coup d'État d'avril 2002 au Venezuela, c'est pareil. Ça ressemblait à un coup d'État, ça avait la couleur d'un coup d'État, ça avait les méthodes d'un coup d'État, mais on pouvait dire après que c'était pas un coup d'État. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, même aujourd'hui encore, quand vous parlez aux dirigeants de l'opposition qui ont mené ce coup d'État, ils vous disent mais non, il n'y a pas eu de coup d'État le 11 avril 2002. Bon, le patron des patrons, parce qu'en fait c'est le patron des patrons qui a pris le pouvoir. Hein. Imaginez ici Célière, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, sa remplaçante. Parizeau, bon, qui prend le pouvoir, déjà ça veut dire quand même beaucoup de choses, et en gros, si on comprend bien sa version, il est actuellement en exil, enfin il est réfugié politique en Colombie, si on en croit sa version, il est passé devant le palais présidentiel, il y avait de la lumière, il n'y avait personne dans le bureau, il s'est assis là pour rendre service. Hein, pendant ce temps-là, on a arrêté le président, on l'a isolé dans une île de la Caraïbe, on a dissous l'Assemblée nationale, on a dissous tous les corps constitués, le Conseil national électoral, le défenseur du peuple, on l'a tout foutu en l'air, on a arrêté des ministres, mais c'était pas un coup d'État. Bon. Donc, il y a eu tentative de coup d'État, et évidemment, ce que n'avaient pas prévu les putschistes, les golpistes, hein, de golpe et coup d'État en espagnol, c'est deux choses. C'est d'abord que Chavez étant un ancien militaire, il a beaucoup d'amis au sein de l'armée, évidemment. Hein. Et que, en fait, la soixantaine, 80 de généraux, d'officiers supérieurs qui ont participé au coup d'État étaient des généraux un peu ventrus, avec des médailles plein la poitrine, mais qui n'avaient pas de troupes directement sous leur commandement. Et qu'en revanche, tous les officiers, hein, les loups, les commandants de troupes, les colonels, les lieutenants-colonels fidèles à Chavez, eux avaient des troupes. Ce qui fait qu'on a eu une double action le 12 et le 13 avril, à la fois la population qui descend dans la rue en réclamant son président, et puis les militaires fidèles, qui sont majoritaires, qui ont les troupes, et qui disent attention, ou vous nous rendez le président, ou va y avoir une guerre civile. Les civils contre les civils, les militaires contre les militaires, et on rentre dans une tragédie. Et à ce moment-là, les putschistes ont reculé. Alors les putschistes, c'est qui? Ben, ça va du patron des patrons, ça c'est normal. En passant par, alors le syndicat évidemment, pour nous c'est étrange, la Confédération des Travailleurs Vénézuéliens, la CTV, parce qu'après tout on se dit le patronat, bon, logique, mais alors comment ça se fait que le syndicat est dans l'opposition au président? C'est vraiment qu'il est mauvais ce président. Alors faut rappeler que la CTV est un syndicat corrompu, hein, c'est un peu un syndicat à la mexicaine, c'est-à-dire qu'il était lié depuis toujours au Parti Action Démocratique, qu'il était la courroie de transmission d'Action démocratique en direction des travailleurs, qu'il a travaillé la main dans la main à la fois avec Action démocratique et avec le patronat, et que donc il a parti. Hein, bon. L'Église vénézuélienne est une des plus conservatrices du continent, hein, avec l'Église argentine et l'Église colombienne, donc l'Église d'un coup, et puis les médias. Alors les médias se sont livrés à une opération telle qu'on en a, je crois, on n'en a jamais vu ailleurs en tout cas. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je connais l'Amérique latine, j'ai jamais vu ça. Pour vous donner un exemple, imaginez-vous qu'ici on soit en période de crise en France, que l'opposition en veuille vraiment beaucoup à Chirac, et que vous ayez tous les soirs, mais je dis bien tous les soirs, sur la 1, la 2, la 3, la 5, Arte, la 6... j'en passe, des débats dans lesquels on accuse Chirac d'être complètement fou, d'être schizophrène, d'être un castro-communiste, d'être un dictateur, d'être un tyran, et puis dans lesquels, à la veille des manifestations, hein, grande manifestation de la République à la Bastille, toutes les 15 minutes, sur tous les écrans des chaînes privées, vous avez « Demain, tout le monde à la manifestation, tout le monde dort, Chirac dort ». Bon, hein, Chirac. Ben, le Venezuela, ça a été ça. Le Venezuela, ça a été ça. Y compris le jour du coup d'État, le 11 avril 2002, alors que se déroulent des événements sanglants dans Caracas, puisque ça a quand même fait 67 morts, cette plaisanterie. Tout l'état-major des golpistes, des putschistes, est réuni au siège de Venevision. On va dire, en gros, ça serait ici un coup d'État où tous les putschistes sont réunis au siège de TF1. Tous, ils sont là. C'est leur quartier général, Venevision. Toutes les chaînes de télé privées vont accompagner le coup d'État. La chaîne d'État privé va être fermée. Pour la première fois au Venezuela, depuis l'arrivée de Chavez, il y a de la censure. La chaîne d'État est fermée, hein, par les putschistes. Et puis, il va y avoir un événement absolument inouï, c'est que le 13 avril, quand la population est dans la rue, quand la population réclame son président, quand la population entière du Venezuela proteste contre le coup d'État, les médias privés font l'impasse totale sur ce qui se passe. C'est-à-dire que les Vénézuéliens ne savent pas ce qui se passe, s'ils sont pas dans la rue. Hein. C'est-à-dire qu'on passe des dessins animés, des films, des telenovelas, des recettes de cuisine, et qu'en fait, la vérité ne commence à se faire jour dans le pays, pour ceux qui savent pas ce qui se passe, parce que ça se passe surtout à Caracas et à Maracay, de villes, que par les chaînes de télévision étrangères qui signalent qu'il y a une importante manifestation à Caracas. Donc les médias sont complètement partie prenante dans le coup d'État, et depuis, ils n'ont pas cessé leur attitude hostile. Hein, ils ont accompagné toute la période de déstabilisation économique, et aujourd'hui encore, moi je lis, puisque Internet maintenant le permet, la presse vénézuélienne tous les jours, c'est une espèce d'entreprise de démolition permanente, y compris quand la réforme agraire, c'est une réforme bolchevique, les médecins cubains dans les quartiers, c'est l'avant-garde d'une armée d'occupation, enfin je veux dire, on entend tout et n'importe quoi.
Justement, puisqu'on parle des opposants, on imagine bien que dans l'appareil d'État, est-ce que l'appareil d'État est complètement acquis à Chavez, et comment ça se passe justement pour mettre en place les réformes qu'il souhaite mettre en place?
Alors oui, ça c'est compliqué, parce que on a affaire à une révolution démocratique. Et finalement, on se rend compte qu'une révolution démocratique, c'est évidemment plus sympathique, mais c'est beaucoup plus difficile qu'une révolution violente. Par exemple, lorsque les bolivariens arrivent au pouvoir, ils pratiquent pas la chasse aux sorcières, coupent pas les têtes. Ce qui fait que toute l'administration, qui a été complètement occupée depuis 40 ans par le clientélisme des deux partis traditionnels, demeure entre les mains de l'opposition. Hein? Lorsque vous discutez avec tel ou tel ministre, ils vous expliquent qu'y compris dans leur ministère, ils ont des gens de l'opposition. Que lorsqu'ils mettent en place des réformes ou lorsqu'ils font passer des mesures, ils sont obligés de contourner leur administration pour pouvoir les mener à bien. Ce qui explique les fameuses missions de Chavez. On lui reproche ça, hein, on dit il gouverne d'une manière verticale, directement avec le peuple, en éliminant les corps intermédiaires. Mais il est bien obligé. Il est bien obligé, sans entre les mains de l'opposition. Ça veut dire que, alors évidemment, il aurait pu éradiquer, hein, couper les têtes, remplacer tout le monde. Tout le monde aurait hurlé à la dictature. Évidemment, l'opinion internationale, les médias auraient dit, vous voyez, ils arrivent, ils virent tout le monde, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un tir. Bon, il l'a pas fait. Mais moyennant quoi, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Par ailleurs, il faut dire que il a le parti sur lequel il s'appuie, le Mouvement pour la Cinquième République, pas un parti complètement fiable. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? D'une manière générale, prenons l'Amérique latine ou prenons même l'Europe. Un parti qui est destiné à arriver au pouvoir, en général, il est né bien avant la prise du pouvoir. Hein, le Parti socialiste français, il est né, je sais pas, dans les années, j'en sais rien d'ailleurs. Bon, je sais pas. Mais prenons, puisqu'on est en Amérique latine, prenons le Parti socialiste chilien, qui a amené Allende au pouvoir en 70, il est né dans les années 30. C'est-à-dire qu'il a le temps de former des cadres, il a le temps de se former une doctrine, une idéologie et tout. Dans le cas du Venezuela, c'est pas du tout comme ça. Chavez, il sort de prison en 94. En 96, il annonce qu'il va participer aux élections, il n'a pas de parti. À part son petit parti, le Mouvement Bolivarien Révolutionnaire. Il est donc obligé de créer un parti électoraliste, hein, qui est le Mouvement pour la Ve République, mais qui du coup va être un parti attrape-tout. C'est-à-dire des révolutionnaires sincères, des gens de gauche, des gens engagés, des gens qui veulent changer les choses, mais aussi parce que très vite, tout le monde, tous ceux qui ont du nez se rendent compte que Chavez va gagner les présidentielles. Des opportunistes de tout poil. Évidemment, des gens des anciens partis qui disent, oh là là, ce colonel avec son béret rouge, il va gagner les élections, c'est là qu'il faut être. Donc le parti, il n'est pas complètement fiable. Hein, ce qui oblige, donc là, ce double aspect de la question, administration entre les mains, enfin en grande partie entre les mains de l'opposition, c'est en train petit à petit d'évoluer, hein. Et puis parti sur lequel il peut pas complètement s'appuyer, l'oblige à deux choses qui lui sont évidemment violemment reprochées. D'abord travailler directement avec le peuple, hein, donc le côté des missions, les cercles bolivariens, et à s'appuyer aussi beaucoup sur ceux qui lui sont fidèles, c'est-à-dire l'armée. Moyennant quoi, beaucoup disent, vous voyez, c'est un gouvernement militariste, c'est pas ça le problème. Hein. Si effectivement il y a beaucoup de militaires, et surtout d'anciens militaires à des postes clés, c'est parce que c'est les seuls sur lesquels Chavez peut s'appuyer.
Et justement, quel est le rôle de l'armée dans cette révolution bolivarienne ?
Il est extrêmement important. Il est important d'abord par le rôle qu'elle a joué dans l'échec du coup d'État. C'est clair. Hein. Il est important parce que, évidemment, la majorité de l'armée étant acquise à Chavez, d'abord elle peut s'impliquer dans les programmes sociaux, hein, puisqu'elle aide beaucoup. Il y a eu, quand Chavez est arrivé au pouvoir, il a lancé ce qu'on a appelé le plan Bolivar, dans lequel l'armée a été impliquée pour reconstruire des écoles, ouvrir des chemins, faire du transport de paysans par camion, par avion. Elle a été très très impliquée. Et puis surtout, évidemment, son rôle est important, c'est que dans la mesure où elle n'est pas hostile, il devient extrêmement difficile de tenter un autre coup d'État, hein, puisque à l'occasion du coup d'État d'avril 2002, les militaires anti-chavistes se sont découverts. Eux, ils ont été chassés de l'armée, et donc l'armée maintenant est relativement sûre, ce qui donne un panorama évidemment différent par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. On va prendre le Chili de Pinochet, où l'armée était hostile, et finalement c'est elle qui a mené le coup d'État. Ça, c'est une hypothèse qui est maintenant beaucoup plus difficile à envisager au Venezuela. Donc en ce sens, c'est un formidable appui. Hein. Par exemple, si Evo Morales en Bolivie gagne les élections en décembre 2004, le 4 décembre 2004, il va être dans une situation beaucoup plus difficile parce qu'en fait, on ne sait pas quelle va être l'attitude de l'armée. Hein. Donc ça, c'est déterminant.
Et un point de justement l'armée, comment elle fonctionne ? Est-ce qu'il y a une armée de conscription ou c'est une armée professionnelle ?
Non, elle fonctionne très 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 classiquement. C'est une armée professionnelle avec une particularité, c'est que elle est ce qu'on appelle d'extraction populaire. C'est-à-dire, alors quand je dis qu'elle est d'extraction populaire, ça ne veut pas dire que les soldats viennent des milieux modestes, ça c'est partout, dans toutes les armées d'Amérique latine ou même de n'importe quel pays, mais y compris les officiers supérieurs. C'est-à-dire, par exemple, que l'actuel commandant en chef de l'armée ou l'actuel ministre de la Défense sont des gens qui viennent des quartiers populaires. Donc elle a une sensibilité sociale, ce que n'ont pas toutes les armées du continent, hein, qui souvent sont issues, bien souvent, dans un pays classique. Je vais prendre un exemple un peu bateau, mais quand dans une famille de la bourgeoisie, quand on a trois fils, donc là, je prends vraiment le cas de figure idéal, hein, le premier, on l'envoie à Harvard. Et puis il va devenir l'un des plus grands entrepreneurs du pays. Le deuxième, il rentre au séminaire. Et puis 25 ans ou 30 ans après, c'est l'archevêque de la capitale. Et puis le quatrième, on le fait rentrer à l'armée et il devient commandant en chef de l'armée. Venezuela, c'est différent. Les militaires viennent de milieux populaires et donc ils ont un attachement très très fort à Chavez, qui leur ressemble en plus. Chavez, il appartient pas à la petite élite des blanquitos, les blancs, parce qu'il y a sociologiquement, on peut dire que l'opposition, alors faut pas en faire une généralité, hein, mais les élites entre guillemets, les classes hautes et moyennes hautes sont plutôt blanches, hein, immigration européenne. Et puis le peuple est plutôt un peu de toutes les couleurs, hein, noir, métis, bon. Et Chavez vient de là. Hein. Chavez, c'est pas un blanquito. Alors ça, dans le portrait de famille des présidents, il fait pas très bien, quoi. Il est pas très bien reçu. Ça c'est jamais dit. Hein. Aucun Vénézuélien ne vous dira qu'il y a du racisme au Venezuela. En même temps, c'est comme au Brésil. C'est-à-dire, c'est vrai que le Brésil a beaucoup fait pour lutter contre le racisme, mais ça existe. Hein. Les élites sont blanches et puis le peuple, ben, il est métis, il est noir, il est indien.
Donde aprendí la clave a cantar como sonero, son montuno, rumba y salsa fueron las primeras pruebas de los maestros Benny, Cuni, Maelo, el conde Adalberto, Celia, Feliciano, Guatus y Oscar de León. Me transmitieron todo su conocimiento de la raíz de lo nuestro, lo importante en conservarlo. Aquí he llegado con el sabor de nuestro ritmo, les canta Cheo Linares para todos los rumberos, mucha salsa, ritmo y clave. Ahí nada más, quiero mandar un saludo tengo unos amigos, unos hermanitos allá en París, Orlando Poleo, Carlos Espósito, Jesse Ramos, Alfredo Cutuflá, para ellos, afecto y cariño. Suerte.
Gracias, muchas gracias. Thank you. yo como un toro, soy más rápido que un gato, soy venado en la carrera, soy la guabina en un charco, fíjense que soy cancriollo. No me gusta usar zapatos, si no consigo alpargata últimamente descalzo, siempre me gusta andar solo para evitarme retraso, respeto mucho lo ajeno para que respeten mi patio, el que se meta conmigo en la cara yo lo marco, el desodorante mío es como yo de más tranco.
Pour vous, quel est le bilan justement de cette révolution bolivarienne aujourd'hui, actuellement, au Venezuela ?
J'aurais tendance à dire que l'importance du bilan, c'est surtout pour les Vénézuéliens. Alors les Vénézuéliens les plus pauvres, je veux dire, ils se sont exprimés d'une manière très très claire, puisque la constitution bolivarienne permet à la mi-mandat de demander l'organisation d'un référendum révocatoire pour chasser le président. Hein, ça c'est bon, si on avait ça en France, je sais pas si Chirac sera encore là. Ce que l'opposition a fait, et le 15 août 2004, donc le 15 août de l'an dernier, un référendum révocatoire a eu lieu au Venezuela, et Chavez l'a gagné, avec 59,06% des voix. Donc près de 60% des Vénézuéliens, des votants vénézuéliens, ont demandé à ce que Chavez reste au pouvoir. Donc le premier bilan, c'est ça. Premier bilan, c'est ça, c'est-à-dire que les Vénézuéliens, jusqu'à preuve du contraire, et contrairement à ce qu'on nous dit, sont très attachés à leur président. Et donc, c'est pas uniquement une histoire d'amour, c'est aussi parce que les programmes sociaux sont en train de fonctionner. Hein. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, donc sur le plan intérieur, il y a des avancées. La deuxième avancée, c'est aussi sur le plan international, c'est-à-dire que Chavez, c'est plus uniquement le président de la République bolivarienne du Venezuela, c'est un président qui est en train de prendre une stature internationale, aussi bien en Amérique latine qu'à l'extérieur, et on l'a vu à l'occasion de sa récente visite, puisqu'il est venu voir Chirac et Villepin la semaine dernière, hein. On est le 23, le 24, je sais plus, ouais. Bon, en Amérique latine, il y a une évolution, on va dire, sur les dernières années, avec l'élection au Brésil de Lula, avec l'élection ou l'arrivée au pouvoir en Argentine de Kirchner, en Uruguay de Tabaré Vázquez, peut-être demain en Bolivie de Evo Morales, et puis de Chavez au Venezuela. Ce qui fait que, à l'inverse de ce qui se passait au moment du coup d'État en avril 2002, où Chavez était complètement isolé. Il était complètement isolé en Amérique latine. Il est entouré de présidents de droite, de présidents conservateurs, de présidents réactionnaires, on pourrait dire. Aujourd'hui, il y a incontestablement un courant de centre-gauche. Hein, on n'est pas dans un courant révolutionnaire partout en Amérique latine, mais il y a un courant de centre-gauche. Et par ailleurs, il a l'intelligence d'utiliser ses voisins dans le cadre de sa stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les Américains qui ont raté le coup d'État, qui ont raté la déstabilisation économique, avaient comme projet de l'isoler dans la région. Hein, et donc, ils ont fait, et ils continuent à faire des pressions sur les présidents des pays alentours pour isoler Chavez. Sauf que ça marche pas. Sauf que ça marche pas. Lula veut pas, Kirchner veut pas, Tabaré Vázquez veut pas. Bon, je parle pas de Fidel Castro, c'est autre chose. Ça marche pas, pourquoi? Parce que Chavez est en train de mettre en place une politique d'intégration, politique bolivarienne. Hein. Alors, j'ai parlé beaucoup de la République bolivarienne, les références de ça, c'est Bolivar. Hein. Bolivar est le libertador, l'homme qui a libéré la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie du joug espagnol, et qui voulait voir naître une fédération des États latino-américains. Bon, il a échoué à l'époque, mais Chavez reprend ça. C'est-à-dire l'intégration latino-américaine pour pouvoir résister aux grands géants du Nord, aux États-Unis. Hein. Bon. Et Chavez est en train d'élaborer des alliances stratégiques. Alors, alliance stratégique avec Cuba, qui l'a sorti de l'isolement, hein, qui l'aide, effectivement, économiquement, mais Cuba l'aide avec l'envoi des médecins, avec l'envoi des enseignants. Stratégie régionale avec la création d'une compagnie qui s'appelle Petrocaribe, hein, grâce à laquelle le Venezuela fournit du pétrole à tous les pays de la Caraïbe à des prix inférieurs au prix du marché, avec 15 ans de crédit à 1% d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une aide au développement absolument considérable, hein, c'est-à-dire que le Venezuela considère pas que c'est le moment de profiter de l'argent du pétrole. D'une certaine manière, il fait cadeau au nom de la solidarité à ces pays des Caraïbes d'une partie de l'argent. Hein. Bon. Et en direction de pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, ils sont en train de passer des accords stratégiques, concernant aussi le pétrole, mais par exemple une partie d'échange du pétrole avec l'Uruguay contre de la viande, puisque la réforme agraire n'a pas encore donné tous ses effets au Venezuela. Il a par exemple décidé que jusqu'à présent l'industrie pétrolière vénézuélienne achetait je sais plus combien de centaines de millions de matériel aux États-Unis tous les ans pour la maintenance, pour les plateformes pétrolières, etc. Qu'à partir de maintenant, 50% de ces achats vont être faits en Argentine et au Brésil. Donc évidemment, je veux dire, pour l'économie brésilienne, pour l'économie argentine, c'est une plus-value. Hein. Donc Chavez s'est fait des alliés dans la région. Hein. Ça ne veut pas dire que Lula ou que Kirchner ou que Tabaré Vázquez soient aussi révolutionnaires que Chavez. Ça ne veut pas dire qu'ils soient aussi en pointe que lui. Mais ils ont des intérêts communs. Et dans leurs intérêts communs, il y a entre autres de résister à ce qui était le grand projet des Américains qui devait être mis en place en janvier 2005, c'est la zone de libre-échange des Amériques, l'ALCA en espagnol, hein, qui est ce vaste marché sans frontières de l'Alaska à la Terre de Feu, pour parler comme un journaliste, hein, et dans lequel, évidemment, les États-Unis, profitant de leur puissance industrielle, de leur puissance agricole, mettaient tous les pays d'Amérique latine en situation d'infériorité. Hein. En plus, avec l'exploitation des ressources naturelles sans limite, de l'eau, de la biodiversité, donc ça inquiète quand même beaucoup les Latino-Américains, hein, qui même lorsqu'on peut les situer au centre-gauche, comme Lula, qui n'a pas fait des réformes extraordinaires au Brésil. En tout cas, là-dessus, ils ont tous des intérêts communs. Et moyennant quoi, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un bloc latino-américain qui échappe aux États-Unis. Ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'arrivent plus. Hein. Chavez, par exemple, a refusé d'impliquer le Venezuela dans le plan Colombie. Et de la même manière... pardon. De la même manière, le Brésil est en train de faire pareil, l'Argentine est en train de faire pareil. Donc il est en train, on peut dire qu'il est, il n'est pas tout seul, mais il est le fer de lance d'un changement de rapport de force entre l'Amérique latine et les États-Unis. C'est évidemment la raison pour laquelle les États-Unis, George Bush, la Maison Blanche, le Pentagone, le considèrent comme un individu dangereux, sans quoi d'ailleurs ils n'ont pas tort, de leur point de vue. Hein. Mais étant entendu, et là faudrait remonter à John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président américain, qui à l'époque, dans les années 60, avait dit « Ceux qui refusent la révolution pacifique provoqueront la révolution violente. Hein, » C'est pas Chavez qui l'a dit, c'est pas Castro qui l'a dit, c'est Kennedy.
Alors, je sais pas, pour ouvrir un petit peu, justement, quelles sont... Alors, on a fait un petit peu le bilan jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les perspectives pour le Venezuela et pour Chavez, et l'après-Chavez, peut-être, je sais pas.
Perspective, c'est l'approfondissement de la révolution. Alors après, là, j'ai pas de boule de cristal. Donc, je veux dire, on va voir. Hein, le processus est sur de bons rails. Les défis, y a pas mal de défis, hein, puisque Chavez, dans le meilleur des cas, est au pouvoir jusqu'en 2012, puisqu'il peut se représenter aux élections de 2006, qu'il va vraisemblablement les gagner, donc il est au pouvoir jusqu'en 2012. Restera à gérer l'après Chavez. Alors, évidemment, là, je mets de côté les coups pourris, les coups d'État, les catastrophes, les tentatives d'assassinat, hein, mais dans un processus démocratique qu'on laisserait se développer. Le grand enjeu pour le Venezuela, ils sont les suivants. Le pétrole. Le pétrole, c'est évidemment le point central, hein, j'en ai peu parlé, mais évidemment, étant le cinquième producteur mondial de pétrole, le Venezuela est dans la ligne de mire des États-Unis. Il faut bien se rendre compte que dans les 20 années qui viennent, la consommation mondiale de pétrole va doubler. Doubler. Hein. Et que donc les États-Unis, qui actuellement importent 52% de leur consommation, vont devoir en importer 60%, par exemple, hein, pour ne parler que d'eux. Donc ils ont absolument besoin de contrôler les zones pétrolières. Il y a trois grandes zones pétrolières sur la planète. C'est le Proche-Orient avec Iran, Irak, Arabie Saoudite. C'est la Russie et c'est les alentours de la mer du Caucase. Et c'est le Venezuela. Plus en Amérique latine, Mexique, Équateur, Bolivie avec le gaz. Hein? Bon, donc il y a évidemment une nécessité pour eux de contrôler ça. Du point de vue de Chavez, c'est ce qui l'oppose aussi aux États-Unis, mais c'est ce qui fait qu'il est bien reçu quand il vient à l'Élysée ou à Matignon, c'est un monde multipolaire. Donc dans ce sens, il retombe un petit peu sur des logiques à la Chirac ou à la Villepin, qui sont pas forcément nos amis politiques, enfin vous je sais pas, mais pas forcément les miens, mais c'est vrai aussi quand même que là il y a des concordances, hein. Je veux dire, en n'allant pas faire la guerre en Irak, la France s'est quand même positionnée contre l'unipolarité des États-Unis en demandant un monde multipolaire, donc Chavez est dans cette ligne. C'est la raison pour laquelle il tente de s'appuyer sur la France. Quand il vient ici, c'est pas pour le plaisir de voir Chirac ou Villepin. C'est parce que il a besoin de ne pas être laissé en tête à tête avec les Américains. C'est parce que, par exemple, prenons là ce qui se passe cette semaine, y compris ce matin. Chavez, il a une armée, comme tous les pays souverains. Il est éventuellement susceptible, le Venezuela, d'être attaqué par les États-Unis. C'est une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse. Qu'est-ce qui se passe? Dans les forces aériennes vénézuéliennes, il y a deux types d'avions, de chasseurs. Il y a des Mirage français et il y a des F-16 américains. Les F-16 ne livrent plus, les États-Unis ne livrent plus de pièces de rechange pour les F-16. Moyennant quoi, le Venezuela s'est adressé à Israël, qui a aussi des F-16. Les États-Unis ont interdit à Israël de faire la maintenance des avions vénézuéliens. Et c'est tout neuf, ça date d'aujourd'hui, les États-Unis viennent d'interdire à l'Espagne, membre de l'Union européenne, de vendre des avions, j'ai oublié quel type d'avion, parce que dans ces avions, il y a des composantes américaines qu'en vertu des accords qui sont passés, donc les États-Unis interdisent à l'Espagne de vendre des avions au Venezuela. C'est-à-dire qu'on essaie d'étrangler le Venezuela. Là, je prends le domaine militaire. Donc, lorsque Chavez vient à Paris, c'est pour éventuellement négocier des accords de défense. C'est-à-dire du militaire, du matériel militaire, mais aussi éventuellement quand il vient en Europe, parce qu'il y a le même problème avec les plateformes pétrolières. C'est du matériel américain. L'industrie pétrolière, c'est du matériel américain. Qu'est-ce qui se passe le jour où les Américains bloquent la maintenance, le matériel et tout? L'industrie pétrolière vénézuélienne, elle est étranglée. Donc, il est en train d'établir des alliances pour pouvoir contrecarrer cette politique agressive des États-Unis. Donc, en ce sens, c'est un véritable homme d'État. C'est pas, on le présente souvent comme un fantaisiste. C'est vrai qu'il a un côté un peu baroque. C'est pas un chef d'État traditionnel, avec son béret rouge, sa grande gueule, ses discours à la télévision qui durent des heures. Donc, on le présente comme quelqu'un de folklorique. Il n'est pas folklorique du tout. C'est un véritable homme d'État. Il est en train de mener une politique très intelligente. Et en particulier, il y a un aspect très important également, c'est que non seulement il s'est gagné, sinon la sympathie, en tout cas la neutralité et même certaines formes d'appui de ses homologues du continent, mais que tous les mouvements populaires d'Amérique latine ont les yeux tournés vers Chavez. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer qu'avec une politique, avec une volonté politique, on peut faire des réformes. Ce que tout le monde prétendait impossible. Lula n'a pas fait la réforme agraire. Alors, on nous dit, ouais, mais le Venezuela, forcément, c'est un pays riche, ils ont le pétrole. Attendez, le Brésil, c'est pas un pays pauvre. Le Brésil, c'est la 9e puissance économique mondiale. Donc là, ce qui fait la différence, c'est la volonté politique. Les Boliviens ont les yeux tournés vers Chavez. Il est en train de montrer, j'allais donner une phrase bateau, qu'un autre monde est possible. Bon, alors on va laisser tomber parce que celle-là commence à être galvaudée, mais qu'effectivement, là où il y a une volonté politique, il y a un chemin. Et qu'il y a la possibilité de lancer des programmes en direction des pauvres et de stopper cette spirale infernale qui voit le nombre des pauvres en Amérique latine augmenter chaque jour un peu plus.
Alors est-ce qu'on peut espérer que, au-delà du charisme et du génie politique de Chavez, il y aura des successeurs possibles?
Alors, c'est la question la plus difficile. Ça, c'est la question la plus difficile et c'est la raison pour laquelle l'opposition est entrée dans une course de vitesse. C'est-à-dire, si ils ont essayé de renverser Chavez, d'abord antidémocratiquement, et je pense qu'ils vont recommencer, c'est pour l'empêcher d'avoir le temps de mettre en place et les structures et les hommes qui lui succéderont. Il est en train en ce moment de survivre dans le mouvement populaire, dans le mouvement social des leaders. Il n'y a pas encore, effectivement, au niveau du pays, quelqu'un qui peut remplacer Chavez. Il n'y aura pas de second Chavez, de toute façon. Chavez, il n'y en a qu'un. C'est comme Castro, il n'y en a qu'un. Mais donc, il faut du temps. Il faut du temps pour asseoir la révolution. Chavez l'a dit, la révolution bolivarienne, il faut au moins 25 ans. Et il a raison, je veux dire, c'est pas un coup de baguette magique, c'est compliqué, c'est difficile. Là, je suis en train de vous présenter une image extrêmement positive, mais il y a aussi des avancées, il y a aussi des reculs, il y a des erreurs, il y a des ombres, il y a encore de la corruption, il y a de la bureaucratie, donc c'est difficile. Donc il faut du temps, il faut essayer des leaders. Le successeur de Chavez, on ne le connaît pas, pour l'instant. Ça va être une question de temps, mais surtout... Ce qui sera et ce qui est très important, c'est la montée en puissance du mouvement populaire, du mouvement social, qui est en train de se former, qui est en train de former des cadres, et qui, en tout état de cause, même quand Chavez ne sera plus là, sera en mesure de dire, attention, la révolution, elle a commencé en 1998, elle nous a apporté ça, il n'est pas question de revenir en arrière, et maintenant, il faut aller plus loin.